Bonjour et bienvenue au podcast du CSH. Je me présente, je suis Charles Olivier, étudiant finissant en sciences humaines. Et je suis accompagné de Florence Viau.
Bonjour.
Julie Asmé.
Salut.
Et Maude Maurice.
Bonjour.
Et le podcast aujourd'hui aura comme sujet les femmes en Amérique du Nord. Alors, nous avons traité de trois sujets. Alors, nous avons fait des reportages en interrogeant différentes femmes sur leur situation. Nous avons cherché des archives au centre d'archives de la Rivière du Nord au Vieux-Palais. Et nous finirons par un club de lecture sur différents livres que nous avons lus au sujet de la femme. Parfait. Alors, nous allons commencer les reportages avec Florence. Alors, Florence a fait une entrevue anonyme avec une femme immigrante au Québec et qui est aujourd'hui stagiaire au Coffret. Alors, d'où vient cette femme?
Cette femme vient d'un pays d'Europe de l'Est que je peux pas nommer étant donné qu'elle veut vraiment préserver son anonymat. Elle est arrivée au Québec en 2012 avec sa famille, son mari et ses deux filles, donc une âgée de 4 mois et l'autre de 5 ans. Alors, elle n'occupait pas d'emploi et elle va débuter des études en travail social 6 mois après son arrivée ici.
Oui. Quelles ont été les difficultés les plus grandes qu'elle a eu besoin de surmonter en arrivant au Québec?
Bien, d'abord, elle précise que quitter son pays vers l'inconnu demande énormément de sacrifices. C'est une grande source d'insécurité. Ça peut être très angoissant, autant pour elle que pour n'importe quel immigrant. C'est toujours très tragique, car les immigrants doivent quitter leur famille et leurs racines. Ici, ce qu'elle ressort de ces difficultés, c'est d'abord la langue. Donc, le français, elle n'avait pas beaucoup d'habileté en français. Ça a été très difficile. Mais elle a suivi des cours de francisation qui l'ont beaucoup aidée. Et ça, par exemple, ces difficultés en français l'ont mené à des difficultés à remplir des formulaires nécessaires pour des démarches d'admission aux études, par exemple. Mais elle dit que pour elle, être une femme, ça n'a pas représenté un défi énorme en tant qu'immigrante, étant donné qu'elle venait d'un pays d'Europe de l'Est où, justement, la condition des femmes est relativement similaire à celle au Québec. Mais ça, j'en parlais un peu plus plus tard.
Parfait. Quelles ont été les ressources qu'elle a eu droit lorsqu'elle est arrivée au Québec?
En fait, elle a eu recours à des organismes communautaires d'intégration pour les immigrants. Donc, certains s'adressaient plus spécifiquement aux femmes immigrantes. Toutefois, elle est vraiment très critique par rapport à l'aide qu'elle a reçue de ces organismes-là, car cette aide-là était très limitée. Puis, d'ailleurs, je vais vous faire écouter maintenant un extrait dans lequel elle explique son malaise par rapport à l'aide qu'elle a reçue de ces organismes.
Oui, je suis consommatrice de certains services pour les immigrants.
Okay.
Une fois, j'ai visité le centre des femmes de Montréal, mais j'étais surprise que, entre nous, les femmes favorisées dans le centre, c'est les femmes musulmanes et noires.
Okay.
À mes yeux, je n'étais pas pris très au sérieux avec mes problèmes, parce que la question générale était « Vous êtes minorité ou non? »
Puis vous n'étiez pas considérée...
Oui, je suis européenne.
Ouais, c'est ça.
Avec un visage européen, pareil de tous les Canadiens.
Ouais, je comprends.
D'origine.
OK.
Et ensuite, quelle perception a-t-elle des femmes québécoises?
D'abord, par rapport aux femmes de son pays d'origine, comme je l'ai dit plus tôt, elle remarque beaucoup de similitudes entre les générations des femmes de son pays d'origine et celles d'ici. Donc, ces générations-là partagent des valeurs communes, des réalités communes, mais elle dit qu'il y a quand même certaines différences. Puis, encore une fois, je vais vous faire écouter un extrait qui traite de ce sujet-là.
Oui, c'est différent, mais dans chaque pays, les femmes des différentes générations sont tellement différentes l'une des autres.
Oui.
C'est-à-dire que les femmes de ma génération sont un petit peu pareilles dans mon pays d'origine ici.
Ici, donc il y a beaucoup de similitudes.
Il y a plusieurs similitudes. Il y a les différentes pistes de développement d'identité comme une femme.
Oui.
Mais mon pays d'origine a plusieurs valeurs occidentales.
Oui.
C'est-à-dire que pour moi, plusieurs valeurs québécoises, c'était pas difficile d'apprendre.
Qu'est-ce que le Coffret et sa mission en général?
C'est un organisme mis en place par le programme de régionalisation de l'immigration. Donc, le coffret œuvre vraiment dans les Laurentides et offre des services aux réfugiés, aux immigrants, allant de l'accueil à l'installation et à l'intégration complète à long terme de ces nouveaux arrivants-là. Donc, le coffret s'occupe vraiment de les accompagner lors de l'achat, par exemple, de la première nourriture, lors de le premier logement, créer un nouveau compte de banque, etc. Puis, c'est vraiment une aide importante qui contribue aussi à l'intégration de femmes immigrantes qui viennent de cultures vraiment différentes de la nôtre. Par exemple, il y a un comité des femmes du monde où chaque mois, ils ont des rencontres dont ils discutent la condition des femmes. Puis aussi, il y a vraiment des ateliers où ils font, par exemple, des ateliers de cuisine avec ces immigrantes-là pour leur permettre de bien découvrir la culture québécoise et de s'y intégrer et de s'y adapter. Donc, pour conclure, selon l'entrevue que j'ai réalisée, l'immigration, c'est pas quelque chose de facile pour qui que ce soit, étant donné que c'est vraiment une expérience de grand changement, puis de couper ce qui te rattache à ton identité. Puis c'est pourquoi justement les organismes jouent vraiment un rôle primordial dans l'intégration adéquate de ces gens-là, autant pour les femmes que pour n'importe lesquels immigrants au Québec.
Parfait, merci beaucoup Florence. Et pour ce qui est de mon entrevue, j'ai interviewé Michel Abesselot, sociologue et professeur de méthode quantitative au Cégep de Saint-Jérôme. Je lui ai questionné puisqu'elle est native du Cameroun en Afrique. Alors, je lui ai questionné sur différentes questions qui avaient rapport avec le Cameroun et le Canada et son intégration en fait.
Puis, ils étaient comment les conditions de la femme au Cameroun?
Parfait. Alors, premièrement, les femmes ont le droit de vote au Cameroun, ce qui m'a surpris en fait. Et je vais vous laisser écouter Mme Abesselot qui en traite davantage sur le sujet lors de l'entrevue que j'ai fait avec.
Il y a deux choses à préciser. Okay. C'est qu'il y a le pouvoir officieux et le pouvoir officiel. Donc, les femmes ont beaucoup, beaucoup de pouvoir officieux. Mais officiellement, elles ont un statut. Ça fait à peine 10 ans qu'elles ont un statut d'être humain. Ah, okay. Là. Sinon, elles étaient considérées comme des enfants.
Ah, ok.
Par contre, c'est important cette question. Pourquoi? Parce qu'on est dans des pays où il y a des traditions qui étaient là avant les colonisations. Et il y a ce que la colonisation et la religion ont amené. Et souvent, ça se côtoie.
Okay.
Puis traditionnellement, au Cameroun, les femmes avaient du pouvoir officiel. C'était des déesses quasiment. Hein? Les dieux n'étaient pas très importants, c'était surtout les déesses. Et donc, après la colonisation, on a comme adopté des valeurs européennes avec la religion catholique qui a remis l'homme au pouvoir. Et donc, ça a fait en sorte que des fois, il y a des régions dans les campagnes, les femmes ont beaucoup de pouvoir, mais en ville, les femmes en ont moins. Et ça se côtoie.
Ah, ok.
Dans les deux cas, mais de manière générale, les conditions des femmes, les femmes n'ont pas beaucoup de pouvoir de manière générale. Tout ce qui est paperasse, administration,
c'est les hommes.
C'est des hommes.
Et comment est-ce qu'elle a vécu son intégration au Canada?
En fait, elle a trouvé son intégration quand même difficile, surtout au niveau social, parce qu'au Cameroun, les gens sont très sociaux, en fait. Ils parlent entre eux autres sur le coin de la rue ou dans un taxi, tandis qu'ici, les gens sont très individualistes. Et ça, c'était vraiment quelque chose de difficile pour elle. Et aussi, dans ses premières années, lorsqu'elle est arrivée, elle m'a expliqué que elle avait passé Noël tout seule, loin de sa famille. Elle trouvait ça vraiment triste, en fait. Et c'est normal. Et aussi, elle m'a expliqué que elle avait rejoint un peu la communauté africaine à Québec. Et lorsqu'elle a essayé de s'intégrer plus à la société québécoise, elle a été finalement rejetée par sa communauté africaine puisque ça avait comme été une trahison, un geste d'abandon. Ok, je vais vous en laisser un peu plus de détails avec l'extrait suivant.
Ce qui me rendait folle quand je venais d'arriver, c'est de passer une journée sans parler à personne. Pour moi, c'était... Non. Ça se fait pas. Donc, c'est l'aspect social où les gens se parlent sans avoir un but spécifique. Parce que ce que je trouvais ici, c'est que les gens vont te parler quand ils ont quelque chose à te dire, quand ils ont une question.
Ok, et dans ton entrevue, qu'est-ce qui sort comme différence entre le Cameroun et le Canada?
Parfait. Alors, j'avais posé la question lorsque l'entrevue était terminée puisqu'il avait manqué de temps, mais En fait, il y a beaucoup de différences entre le Cameroun et le Canada, surtout encore une fois au niveau social. Par exemple, surtout au niveau la crouse, un peu l'expression anglaise pour le drag, en fait. Et elle me dit que là-bas, au Cameroun, les gens étaient un peu plus macho, les hommes, en fait, pour aller vers les femmes. C'est comme ça que, dans le fond, vous voyez que les hommes étaient intéressés par la femme. Tandis que ici, si quelqu'un était macho, c'était comme, un cochon sale. Hein? Exactement, comme ça. Et ils sont beaucoup plus subtils, ils sont beaucoup plus gênés. Puis elle a vraiment trouvé ça drôle, en fait. Aussi, c'est beaucoup plus avancé, surtout au niveau technologique, santé, sociale, au Canada qu'au Cameroun, évidemment. Puisque c'est surtout les hommes qui dirigent le pays, même si les femmes ont certains droits, ils l'ont pas tous. En fait, exemple, je t'avais posé la question, qu'est-ce qui arrive, exemple, lorsqu'une femme se fait violer? En fait, ils ont des ressources, mais ça passe. C'est comme juste pour dire qu'il y en a, ils n'agissent pas vraiment en fonction de régler la chose. Tu dois te taire, tu dois assumer que c'est un peu de ta faute, malheureusement. Ouais. C'est vraiment triste. Puis au Canada, une autre chose qu'elle a un peu moins aimée, c'est surtout que, comme je disais tantôt, le social, en fait. Alors, lorsqu'elle était arrivée, elle a essayé de parler à quelqu'un sur le coin d'une rue. La personne l'a vraiment regardé bizarrement. Ça, elle a un peu moins aimé ça. Mais elle s'est quand même habituée. Puis quand elle est retournée au Cameroun, rendre visite à sa famille, c'était le contraire. Sa famille voulait toujours aller lui parler. Elle a dit, ok, non, j'ai besoin d'un moment à moi tout seul. Je trouve vraiment trouvé ça drôle qu'il fallait qu'elle s'adapte à chaque fois qu'elle visitait son pays puis qu'elle revenait au Canada. Quand elle revenait au Canada, elle trouvait ça difficile parce qu'elle était un peu tout seule sans sa famille. Mais bref, c'était vraiment une entrevue très intéressante. Et, merci beaucoup encore, Madame Abissolo, pour cette bonne entrevue. Parfait. Et Maud, toi, tu avais une entrevue avec Lucie, qui est une ancienne camionneuse et une opératrice de grue, si je ne me trompe pas.
Oui, exactement. Elle était camionneuse pendant 11 ans et elle a opéré des grues pendant 4 ans. Donc, c'est des métiers qui sont associés aux hommes, là, surtout. Et voilà pourquoi je l'ai interviewée, parce que je me disais que dans ces métiers-là, souvent que les femmes, leur situation par rapport aux hommes, c'est moins égalitaire. Que dans d'autres métiers qu'on retrouve, là, comme, mettons, avec l'enfance ou ces choses-là, comme des professeurs, il y a plus d'hommes. Ouais. Là-dedans, c'est pas du tout pareil. Alors, au départ, j'ai demandé de quelle façon l'intimidation et le harcèlement qu'elle a vécu en milieu de travail se sont présentés à elle. Alors, je vous laisse écouter un extrait de sa réponse.
Des amis, puis une année, t'en as plus. T'as des gens qui veulent te faire du trouble. Ils parlent contre toi. Je me suis fait briser mon camion pour me ralentir, parce que camionneur, ben, moi, je t'ai payé au millage. Fait que si je roule pas, je suis pas payé. Puis, ça m'est arrivé même que, volontairement, il y a des gens qui ont mis des produits, des nettoyeurs à frein, là, c'est des produits, c'est nocif pour la santé, mais on a foutu ça dans mon lunch.
Alors, on remarque tout de suite qu'elle exprime la perte des contacts avec des amis, aussitôt qu'elle apprenait de l'expérience, qu'elle avait plus d'argent, qu'elle gagnait plus d'argent, ben là, à ce moment-là, elle a commencé, il y a des gens qui ont commencé à dire, bon, ben, je me tiendrai plus avec elle, j'y parlerai plus, peut-être par jalousie. C'est ça, l'affaire, c'est qu'elle avait de la difficulté à comprendre, on remarque pourquoi que ça se produisait, ces choses-là. Ensuite, on remarque la diffusion d'accusations qui vont nuire à son travail puis à son effet de professionnalisme, parce que tout travailleur doit être reconnu par son employeur pour être assez professionnel. Quand il y a d'autres employés qui vont dire à ton employeur que tu fais un mauvais travail, qui donne des mauvaises accusations envers toi, ben ça nuit à ton travail au complet. Qui vont tenter aussi de ralentir son travail ou de diminuer son revenu, et pas comme directement, mais indirectement, en même temps, on peut comprendre qu'en essayant de diminuer son revenu, c'est peut-être par l'ego. Parce qu'un homme qui va gagner moins qu'une femme, qui fait un travail d'homme, ben là, ça va venir affecter un petit peu l'ego d'un homme. Surtout un homme, peut-être pas... Je veux pas dire des choses infondées. C'est juste que des hommes qui travaillent dans des métiers d'hommes, qui travaillent pas avec des femmes d'habitude, c'est plus... peut-être plus macho, peut-être plus... Oui. On s'entend... aussi, elle a vécu des agressions indirectes là, qui ont nui à son intégrité physique, donc c'est assez grave, là, ouais.
Oh, ok. Ouais. Et est-ce que c'est vraiment répandu ou c'est vraiment juste dans le métier de la construction?
Mais ça, elle savait pas. C'est sûr que moi, selon son entrevue à elle, elle a vraiment parlé de elle-même, c'était comment. Okay. C'est sûr qu'en terminant l'entrevue, moi, je lui ai demandé... si elle croyait que la place des femmes dans ces métiers-là, est-ce que ça devenait de plus en plus égalitaire ou est-ce que ça reculait?
Okay.
Et je vous laisse écouter sa réponse.
Ce qui menace, c'est pas leur place. Moi, je dirais que c'est plus au niveau financier. Quand une femme s'établit, puis que, comme je disais tantôt, tout le monde dans l'échelle salariale, à un moment donné, si la personne se rend compte que tu peux gagner plus que lui, à ce moment-là, moi, je pense que ça joue avec l'ego d'un homme. Il y a des hommes qui sont respectueux, qui sont corrects avec les femmes, qui vont être là pour les aider s'il y en a, s'ils le demandent, puis s'ils courront pas après elles pour montrer qu'ils sont là, autrement dit. Puis il y en a d'autres que des vieilles mentalités où ce qu'une femme a pas sa place sur le marché du travail, des fois carrément, parce qu'il y en a combien de fois je me suis fait dire « retourne dans tes chaudrons », tu sais, parce que comme si c'était la place qu'une femme devait être, c'est dans une cuisine, ou les comme qu'ils disaient « retourne mettre les pieds en dessous de ton comptoir ». Mais c'est ça, c'est des discriminations, des vieilles mentalités, selon moi.
Alors voilà, pour répondre à ta question avec ce qu'elle vient de dire, dans le fond, elle dit que les femmes souvent vont se désister de ces travails-là. Dans le fond, peut-être, elle sait pas exactement comme qu'elle l'a dit, c'est à cause du harcèlement. Elle, c'est à cause de ça, mais elle remarque qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes qu'elle a connues dans ces métiers-là, que ça reste comme quelques années, puis après ça, ils doivent quitter pour des raisons personnelles, mais c'est jamais clair, c'est, ils partent rapidement, puis c'est ça. Et comme elle dit aussi, c'est aussi l'employeur du sens où il y a des nouvelles mentalités comme des anciennes. Des mentalités où on pense que la femme doit toujours être au foyer puis qu'elle a pas sa place dans des métiers en général. Ben c'est sûr qu'il y a toujours des employeurs qui sont comme ça, comme il y a toujours des employés qui le sont, hein, donc c'est normal de voir ça, mais dans ces métiers-là, en ce moment, avec les générations qui sont comme les employeurs, là. Mais si notre génération, en fait, les plus jeunes, on n'est pas encore sur le marché du travail, mais rendu là, est-ce que nous, on va encore avoir ces valeurs-là quand on va choisir nos employés? Peut-être pas, là. C'est ça qui reste à voir. Et il y avait une dernière question, c'est si elle pensait que certains hommes voyaient leur place menacée par l'arrivée des femmes dans les métiers d'hommes. Alors, je vous laisse écouter sa réponse.
Moi, les femmes que j'ai connues ont fait un certain temps. Se sont dirigés vers d'autres métiers, d'autres professions. Puis moi, je suis actuellement en restructuration aussi de ce niveau-là. Après quoi, 14-15 ans de métier avec les hommes, que j'ai atteint ma limite. J'ai connu des femmes qui ont fait un peu plus, 20-25 ans, mais que finalement ont été vers autre chose. Est-ce que c'est le métier? Est-ce que c'est les hommes? Moi, c'est selon mon avis, mon expérience à moi, c'est dû au fait de harcèlement que j'ai pu avoir vécu avec les hommes. Est-ce que les hommes vont se sentir égales ou est-ce que pas les hommes se sentir égales, mais est-ce que à un moment donné, les femmes vont, les métiers hommes-femmes vont devenir
dans les métiers d'hommes, mettons, est-ce que ça va devenir égal?
D'après moi, je sais pas. Les vieilles mentalités sont pas changeables. C'est ça que voir, est-ce que les nouvelles générations qui rentrent sur le marché, est-ce qu'ils sont ouverts aux femmes? Ou est-ce qu'on continue encore à avoir des préjugés envers les femmes, que ça s'occupe des bébés, ça s'occupe de la vaisselle, puis du ménage? Ou c'est en train de changer? Reste à voir. Mais encore là, le niveau social aussi, peut-être, fait une différence. Ça serait difficile de dire que les femmes, autant que les hommes, auraient leur place dans tous les métiers, selon moi.
Okay. Alors voilà, comme elle explique, les femmes qui gagnent plus, ça va affecter l'ego des hommes, un peu comme j'ai dit un peu plus tôt. Et, sauf qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même bateau. Alors voilà, c'est aussi simple que ça.
Ok, parfait. Bien, merci beaucoup, c'était vraiment intéressant. Alors toi, Julien, tu as fait une entrevue avec Natasha Dillon qui est sur le sujet du sexisme dans le milieu des affaires.
Oui, en fait, c'est comme vous avez dit, c'est Natasha Dillon qui, en ce moment, elle occupe le poste de directrice dans une firme internationale de gestion et de consultation. C'est-à-dire qu'elle s'occupe de beaucoup de différentes entreprises puis du personnel. Alors, une grande expérience. Puis de plus de ça, elle a 20 ans d'expérience dans plein de différents domaines du monde de l'entreprise. Alors, elle était quand même très bien qualifiée pour me répondre. J'ai commencé par juste essayer de comprendre quelle forme prend le phénomène de nos jours du sexisme dans l'entreprise. Puis elle m'a parlé d'une certaine évolution vers d'une forme beaucoup plus explicite qu'il y avait avant. Donc, elle pouvait entendre des commentaires assez désobligeants sur le fait qu'elle était une femme puis vraiment sexiste, vers quelque chose de beaucoup plus implicite et moins avoué qu'avant, qui se manifestait quand même.
Ok, parfait. Et quels sont les stéréotypes les plus difficiles à gérer aujourd'hui dans ce domaine-là?
Oui, mais en fait, qu'est-ce qu'elle m'a dit, c'est que c'était surtout sur des niveaux plus élevés de carrière que c'était plus difficile. Okay. C'était au niveau de la progression. Par exemple, elle me parlait de sa propre expérience d'aller en congé de maternité. Je vais écouter un extrait juste pour illustrer ce que je veux dire.
Je travaille avec beaucoup d'organisations et je trouve que la culture peut être très différente. But there are challenges, I think, particularly around career progression. So if a woman chooses to spend time out of the workplace to raise a family or to have children, I think it can be terrifically difficult when you come back in again. And I think people make all sorts of assumptions around your desires and your need and your wants for progression. So I think people almost assume, you know, you've been off and had children and therefore you come back and you're not ambitious. And I think for me, when I had my children, I came back being even more ambitious because I felt that if I was working to be away from my children, it really had to be worth it. And it had to be something that I really wanted to do and was passionate about. And also something that was going to provide a reasonable income and a way that I could do a role that was really going to make a difference. So I think it was something that made me more challenging of the situation around me and also just more determined to progress in the organization.
Alors, comme vous avez pu entendre, ce qui est arrivé, en fait, c'est qu'on la considérait vraiment beaucoup moins ambitieuse quand elle était revenue. Tandis qu'au contraire, elle voulait vraiment s'impliquer, puis elle voulait pouvoir prouver, elle sentait comme si elle devait prouver des choses à tout le monde autour d'elle, puis elle pouvait pas parler de sa vie familiale au travail, puis c'était très difficile. On lui a refusé certaines promotions et des choses comme ça. Elle avait l'impression que c'était comme si elle perdait l'intérêt à cause des enfants qu'elle avait, alors qu'au contraire, elle avait besoin de faire du revenu pour sa famille, comme si c'était elle qui faisait plus d'argent à cause des stéréotypes.
Ah, ok.
Alors, la deuxième question que j'ai posée, c'est comment elle a eu vraiment besoin de s'adapter à travailler dans un milieu qui était typiquement masculin, parce que là, elle a travaillé à travers plein de différents milieux de travail. Elle a dit qu'elle travaillait beaucoup, beaucoup plus fort, puis elle a l'impression qu'elle avait besoin d'être mieux pour ses collègues pour se faire entendre de la même façon. Je vais vous faire un extrait pour expliquer un peu qu'est-ce que je veux dire.
It's sad but true. I've always felt that you might need to work harder and be a lot better than some of your male counterparts just to be able to be on an even footing. But I think as you kind of gain in confidence and maturity perhaps, and definitely experience, you learn that there are certain things that women can typically present themselves as being which aren't particularly helpful. So I'm a big believer in still being feminine at work, but also being very strong. And I think there are certain things that women are renowned for, fairly or unfairly. So things like getting emotional in the workplace. Often women are assumed to be less rational and logical, which I think is completely untrue, but there are certain ways that you present yourself, and even things like learning how to work with your body language, being very careful about how you dress. Mm-hmm. Yeah, so if I'm going into a meeting which I know is going to be male dominated, I would always wear a trouser suit. I'm not going to go in there wearing a dress. So I think, you know, women have to not just be better and work harder, but they also have to think harder about how they present themselves in certain situations.
Alors, comme vous avez pu entendre, elle a dit que les femmes, ils sont reconnus dans le monde de l'entreprise quand même beaucoup plus émotives puis moins rationnelles que les hommes, ce qui est complètement infondé, en fait. Puis, elle avait besoin vraiment de faire attention à la façon qu'elle se présentait pour pas véhiculer des mauvais stéréotypes. Alors, quand elle savait qu'elle avait besoin de faire un meeting avec des hommes, ce qu'elle allait faire, c'est qu'elle allait s'habiller tout en complet, puis elle allait jamais porter de jupe, puis elle allait essayer de sembler très froide, puis avoir un langage corporel très neutre. Mais en même temps, elle avait l'impression qu'elle avait une certaine intelligence émotive qui venait en partie de sa féminité, qu'au final l'a beaucoup aidé.
Quelles ressources existent pour supporter les femmes dans cette entreprise et dans les entreprises en général?
En fait, elle, elle a bénéficié plutôt dans sa carrière d'un mentorat pour les femmes qui étaient plus âgées puis qui avaient plus d'expérience. Puis elle-même, après ça, elle a fait du mentorat pour des jeunes femmes dans le domaine de l'entreprise. Il y a aussi des trainings qui sont offerts par les entreprises elles-mêmes pour travailler sur son assurance et des choses comme ça. Il y a aussi beaucoup de science dernièrement qui sort sur comment avoir une meilleure assurance par rapport à comment moduler sa voix ou son langage corporel, encore une fois. C'est ce qu'elle dit dans l'extrait qui suit.
I'm still a big believer in mentoring, and I think I'm an even bigger believer in equipping women with tools. So I remember I was probably in my early 20s going on a course called The Influential Woman, which was basically about assertiveness training. And I think there's still room for some of that stuff, but I think, you know, we know so much more now about how people make an impact. There's some fantastic work being done by people like Amy Cuddy around presence and what you do with your body language, by you know, others, Olivia Fox-Caban around charisma. We know so much more about the whole field of neuroscience and the impact. And I think there, you know, there are so many tools. There are things like vocal training. So a number of studies have shown that because of a woman's vocal range and pitch, they're not taken as seriously. There's all this sort of stuff that you can do. But I think, you know, there's something about just helping women understand that they don't have to be men. So a lot of successful women in business become more alpha male than a lot of men, and I'm not sure that's the answer to everything. And I think, you know, I know of people I've worked with, the two women who I've worked for have probably been more difficult to work for than any man I've ever worked for. So I think there is something around, you know, really helping other women out and helping people up the ladder. But I also, you know, I mentor young men too. I don't think anybody has a particularly easy time starting out in business now. I think things are incredibly competitive just to get there and to stay there. And I think, you know, regardless of gender, we all should be playing more of a role in helping people be the best that they can be and helping people meet their potential. And if you just so happen to be a woman, then maybe you have a slightly different toolkit in some ways than if you're a man. But I think, you know, a lot of this is the business world is incredibly demanding of anybody. And, you know, we can equip people so that they feel more powerful.
Plus tard dans l'entrevue, elle va aussi mentionner d'autres choses par rapport à l'accessibilité de l'information qu'on a aujourd'hui. Il y a beaucoup de livres qui vont nous aider sur le charisme et s'imposer et faire passer son message et être capable de passer par-dessus les stéréotypes qui sont en place. Il y a aussi les entreprises qui sont de plus en plus conscientes de ces choses-là, mais comme les stéréotypes sont très implicites, dès qu'on commence à monter à des niveaux plus hauts, ça peut être très difficile. En fait, ce que j'ai compris de l'entrevue au complet, c'est que les difficultés qu'elle a rencontrées, au final, c'est devenu des avantages pour elle. Parce qu'elle a appris à travailler très très fort et se concentrer sur ce qu'elle faisait, puis essayer de laisser tomber le fait qu'elle était une femme, puis se concentrer plus sur vraiment avoir besoin de faire un certain rendement. De même, comme je l'ai dit avant, son intelligence émotionnelle lui a vraiment aidé à comprendre qu'est-ce qui arrivait dans la salle et pas se laisser aller dans des dynamiques de pouvoir et vraiment comprendre les besoins de tout le monde et essayer de faire comprendre, essayer d'arriver à un certain entendement.
Parfait, merci beaucoup, Julias. Alors, c'est ce qui complète la chronique sur les reportages et les entrevues que nous avions fait au sujet des femmes. Alors, maintenant, nous allons passer aux archives que nous avons été chercher au centre d'archives, en fait, de la Société d'histoire de la Rivière-du-Nord au Vieux-Palais à Saint-Jérôme. Alors, Florence, ton archive était sur le récit personnel du Recorded Test Artist de Montigny en 1996, intitulé « La colonisation, le nord de Montréal ou la région Labelle ». Alors, sur quoi porte le récit personnel de façon générale?
Le récit personnel porte sur Saint-Jérôme et ses environs à la fin du 19e siècle. Donc, moi, j'analyse un extrait particulier où l'auteur se penche vraiment sur la perception qu'il a du rôle des femmes et des hommes à son époque.
Et dans quel contexte a-t-il été rédigé?
OK, mais d'abord, il faut comprendre qui est l'auteur. Donc, le Recorded Test Artist de Montigny est né à Saint-Jérôme en 1838. C'est le fils d'un lieutenant-colonel qui étudie le droit et qui devient avocat. Il va publier beaucoup de ses discours, de ses jugements, de ses rédactions dans les revues intellectuelles canadiennes-françaises. Donc, justement, quand il rédige tout ça, c'est la fin du 19e siècle où Saint-Jérôme est toujours en émancipation. Donc, au début du siècle, il y a une première vague de colonisation du nord de Montréal. Puis c'est là, au fil des décennies, où Saint-Jérôme va acquérir des nouvelles caractéristiques qui lui permettent de grandir. Donc, par exemple, la création de la paroisse en 1834, la création de l'église en 1839. Ensuite, au fil des ans, il y a des nouvelles perspectives industrielles qui vont arriver à Saint-Jérôme. Par exemple, la compagnie Roland, la pulperie des Lilles, Boston Rubber en 1896. Puis tout ça va favoriser le regroupement et la croissance de la population à Saint-Jérôme. Justement, le curé Antoine Labelle va permettre cela en inaugurant le chemin de fer en 1876. Donc, lorsque le Coderre rédige cet ouvrage-là, c'est vraiment une époque d'essor économique et social. Puis justement, c'est là où vont naître les premières écoles à Saint-Jérôme. Donc en 1850 pour les filles, en 1855 pour les garçons. Puis pour ce qui est de l'enseignement supérieur, ce sera le couvent des Sœurs de Saint-Anne, qui est aujourd'hui le cégep de Saint-Jérôme, qui va naître en 1864. Donc, le couvent va subir beaucoup de transformations, il va se déplacer, tout ça.
Il y a combien d'autres présents à son époque qu'il couvent des Sœurs de Saint-Anne?
OK, mais d'abord, il faut voir à qui s'adresse l'ouvrage de l'auteur. Donc, il s'adresse vraiment à une élite canadienne-française très conservatrice, religieuse et éduquée. Et son propos s'oriente vraiment vers une idéologie du terroir, où on vante le retour à la terre parallèlement avec une croissance industrielle. Et justement, l'auteur va vraiment saluer la noble tâche du couvent de former des jeunes filles, où elles peuvent y apprendre à devenir des bonnes mères, des bonnes épouses, des bonnes travailleuses et des bonnes religieuses. Et c'est là où l'auteur souligne surtout l'importance d'un enseignement beaucoup plus traditionnel, puis à quel point justement ça va être essentiel à l'essor de Saint-Jérôme. Donc le couvent, ça incarne vraiment une richesse pour la paroisse. Parallèlement à ça, il va présenter les hommes comme ceux qui sont destinés au travail agricole, et où les femmes, c'est essentiel qu'elles s'éduquent afin de bien accomplir le travail domestique, ou encore pour contribuer à la vie familiale. Et c'est justement là où l'auteur va insister beaucoup sur la vie familiale. Donc les femmes, ce sont elles qui vont vraiment assurer la stabilité de la vie familiale et vont permettre vraiment des familles nombreuses qui sont encore une fois essentielles à l'essor de Saint-Jérôme, mais surtout à la conservation d'acquis tels que la religion, la langue et la culture du sol. Donc pour conclure, la valeur historique de mon archive est très relative parce que le portrait de Saint-Jérôme que l'auteur dresse est vraiment pas objectif. On ressent vraiment une idéalisation de la ruralité. Mais c'est quand même intéressant d'étudier cette archive-là puisqu'elle nous informe des valeurs et des mentalités qui sont dominantes dans une élite à l'époque.
Parfait, merci beaucoup Florence, c'est vraiment intéressant. Pour ce qui est de mon archive, j'ai été chercher un article du journal La Presse qui traite sur l'affaire Claire de Labio qui s'est passée le 21 novembre 1897.
Alors, c'est quoi l'affaire Cordelia Viau?
En fait, c'est une histoire qui est en fait un événement qui a fait beaucoup de scandale à Saint-Canute dans les Laurentides. En fait, en 1897, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Alors, elles étaient vraiment soumises aux hommes. Et un jour de novembre, Isidore Poirier et Cordelia Viau sont un couple et n'ont pas d'enfants. Et Madame Viau décide d'aller voir son père en compagnie d'un autre ami, le menuisier en fait, qui s'appelle Samuel Parsonon, puisque son mari Isidore était trop sous, en fait, pour aller voir son père, qui est environ 6000, dans ça se calculait en 1000, environ 6000 miles de Saint-Canute. Et le lendemain matin, lorsque Mme Viau et un autre ami, différent de celui de M. Palerson, reviennent à la maison familiale, ce dernier découvre en fait le cadavre de M. Poirier puisqu'il n'ouvrait pas la porte. Il était voir sur le côté de la maison, il est entré par la fenêtre. Et il a découvert que dans la chambre, il y avait une scène de bagarre violente quand même, avec le cou à moitié tranché de M. Poirier sur le lit, avec le sang plein de nappes de couteaux sur le corps. Madame Poirier a fait un peu abstraction de tout ça et a été quand même à l'église faire son chant habituel. Ce qui est plutôt étrange, en fait.
Inquiétant.
La suspecte un peu, Madame Poirier.
Ouais. Et finalement, elle était à l'église, comme ça rien n'était. Et elle en a parlé après le chant de l'église qu'elle a fait au curé Pinault. Et celui-ci a donné une enquête. Et après ça, les médias sont arrivés, ils ont fait la couverture de l'événement. Et après, il s'est interrogé, en fait, de Madame Viau. Et celle-ci disait que c'était un mauvais mari, qu'il était très grognon, puis que... Elle dit qu'il s'est suicidé, en fait, puisqu'il en a souvent parlé, puis qu'il avait un peu des problèmes d'argent, là, aussi. Et, mais cependant, le restant du village n'était pas d'accord avec les affirmations de celle-ci, puisque les gens décrivaient comme étant quelqu'un de joyeux et de très aimé de la population. Alors, ça a vraiment été...
controversé.
Ouais, exactement, très controversé. Et pourquoi que les gens ne croient pas à la thèse du suicide? C'est parce que monsieur Poirier avait le couteau dans la main gauche tandis qu'il était droitier. Et les marques sur le corps, il ne pouvait pas vraiment les infliger lui-même. Mmh. Il y avait déjà un objet dans la main droite, ce qui fait en sorte qu'il n'aurait pas pu s'assassiner lui-même, en fait, de cette façon.
L'auteur, est-ce qu'il est objectif ou il présente plus son point de vue?
Et en fait, la presse, dans les années 1890, c'était un journal conservateur, ce qui fait en sorte qu'il s'était très accroché aux traditions et aux valeurs du fait que les femmes étaient très soumises et inférieures aux hommes, ce qui peut dégager une certaine idéologie masculine, comme de quoi que les femmes ne doivent pas se révolter et qu'elles doivent rester soumises à l'auteur. L'auteur essaie en fait aussi d'accuser Madame Viau en fait, dans son article. Si on lit entre les lignes de l'article, c'est clairement marqué qu'il l'accuse en fait du meurtre, mm-hmm. même s'il n'y a aucune preuve formelle, en fait, que je sais juste dire, en fait. Et c'est, la valeur historique du document est plutôt mitigée, en fait, puisque, comme je dis, ça a été peut-être un jugement qui a été biaisé par le jugement d'une personne, en fait, d'un homme sur l'événement. Mais on voit très bien comment ça fonctionnait dans ce temps-là, quand il y avait un crime, et le langage qui était utilisé dans le temps. Mais je voudrais, j'ai vraiment trouvé ça intéressant, c'est une histoire vraiment intéressante. Et finalement, j'ai conclu par le fait que le meurtre, en fait, n'a jamais été résolu. On ne sait jamais si elle a été, en fait, la vraie coupable ou non du meurtre. Alors, c'est ce qui résume mon archive.
Alors, Maude, tu as une archive sur Léopold Dantel.
Oui, effectivement. Donc, Léopold Dantel a écrit un discours. On ne sait pas exactement c'est en quelle année, il n'y a rien écrit dessus. Sauf que les madames du centre d'archives m'ont dit que c'était probablement entre 1934 et 1951, parce que c'est dans ces années-là que les femmes se sont révoltées, en fait, pour obtenir le droit de vote. Donc, Léopold Dantel était avocat de base. Ensuite, il est devenu maire de la ville de Saint-Jérôme. Et, dans le fond, son discours se nomme « Le discours contre le suffrage féminin ».
OK, et ça avait été écrit dans quel contexte historique?
Donc, comme je viens de le dire, dans le fond, c'est entre 1934 et 1951. Donc, c'est un contexte où les femmes se révoltent pour obtenir le droit de vote, pour devenir plus égales à leur mari ou aux hommes en général, puisqu'elles croient qu'elles aussi, elles ont le droit de s'impliquer dans la politique. Aussi, c'est une époque où l'Église et les valeurs de l'Église sont très, très, très importantes. Ils sont très implantés dans l'esprit de l'époque en général, autant chez les femmes que chez les hommes.
Et comment l'auteur représente le sexe féminin dans son discours?
Dans le fond, il va utiliser plusieurs termes. Donc, premièrement, il va dire que les droits que les femmes veulent sont seulement prétendus. Donc, dans le fond, c'est comme s'il discréditait la crédibilité des femmes quand il disait qu'elles aussi, elles avaient des droits, elles étaient des humains, là, veux, veux pas. Donc, ça. Ensuite, il appelle les femmes le sexe beau. Donc, il va pas juste dire que les femmes, sont
des
êtres inférieurs, okay. Pis tout. T'sais, il va dire vraiment que les femmes, c'est quelque chose de grandiose, c'est beau, c'est féminin, les hommes aiment ça, t'sais, les hommes aiment les femmes pour ça, mais dans le fond, ils veulent pas les voir ailleurs. C'est un peu ça qu'il va dire dans son discours. Ensuite, il va dire que son rôle, c'est simplement être la compagne de l'homme. Donc, puis en plus, il va s'appuyer sur Dieu. Il dit que Dieu a dit ça. Donc, vu que Dieu l'a dit, diable! Exactement. Donc, vu que Dieu l'a dit, ben la femme, c'est la compagne de l'homme. Puis ensuite, il va dire que la femme, c'est le sexe faible. Donc, étant donné qu'il aime la femme et qu'il considère la politique comme dangereuse, il veut pas exposer la femme au danger de la politique parce que, étant donné que la femme, en plus, c'est la reine du foyer, dans le fond, elle pourrait corrompre le foyer, les enfants, son mari, le foyer, plus rien fonctionnerait. Donc, c'est un peu ça qu'il va dire dans son discours par rapport au sexe féminin.
OK. Est-ce que tu crois que, dans le fond, les propos de l'auteur, ça reflète une certaine vision du monde courante à l'époque?
Oui, dans le fond, moi, ce que je crois, c'est qu'il faut pas prendre ses propos comme sexistes, c'est le sexisme d'aujourd'hui, parce que dans le fond, l'opinion de M. Nantel, c'était vraiment une norme qui était obligatoire. Là. L'Église disait tout le monde doit penser comme ça parce que l'Église pense de même. Bon, puis ensuite, l'Église promouvait comme un équilibre entre l'homme et la femme et la sphère privée et la sphère publique. Donc, faut se dire que dans le temps, c'était pas sexiste, c'était vu comme une bonne chose que la femme reste à la maison, tandis que l'homme aille travailler, ramène des sous à la maison, puisque ça gardait un certain équilibre de la vie qui avait toujours été comme ça. Fait qu'on, c'était difficile d'imaginer que un sexe allait comme se mêler de l'autre vie, de la vie de l'autre sexe, dans le fond, parce que tout était déjà bien rempli des deux côtés.
Ils se complémentent.
C'est ça, c'était complémentaire. Fait que personne ne s'imaginait, ah ben non, ça marche pas, tu sais, tout est déjà bien correct comme ça. Ensuite, il y avait la vision que la femme complète son mari, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, c'est la compagne de l'homme. Mais dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que son opinion doit automatiquement être la même que son mari, sinon ça peut causer des conflits dans l'univers familial et ce qui peut causer la déchéance du foyer, comme il dit. Sauf que son principal argument, c'est qu'il dit, étant donné que la femme doit avoir la même opinion que son mari, pourquoi elle devrait aller en politique? Même si elle a une opinion valable, son mari, là, il peut le dire, lui, à sa place. Donc, elle n'est pas obligée d'aller en politique. Ensuite, c'est ça, la femme et le sexe faible. Et l'Église ne voulait pas l'exposer à des dangers parce que, étant donné que c'est la reine de la procréation, comme il dit, dans le fond, puis que la procréation, c'était très, très important dans le temps, là, parce qu'on voulait qu'il y ait le plus d'enfants possible pour, tu sais, question de garder la langue française, ouais, ces choses-là. Le nationalisme de conservation, comme on appelait. Mm-hmm. Et, ben, exactement. Donc, l'Église voulait que la femme s'expose pas à la politique pour pas engendrer toutes sortes de déchéances du monde privé et ainsi de suite. Donc, la valeur historique de cette archive, dans le fond, ben, c'est sûr que c'est extrêmement biaisé parce que l'homme,
c'est l'auteur.
Exactement. L'auteur, il dit que les femmes, ça devrait pas aller en politique. Non. Puis il y a une opinion très, très arrêtée à ce niveau-là. Sauf que pour comprendre l'époque, c'est une très grande valeur historique parce que dans le fond, faut se rappeler que c'est un avocat et ça a été le maire de Saint-Jérôme. Fait qu'il faut se dire que si un maire d'une ville a cette opinion-là, ben pas juste un petit Germain là qui dit ça là, c'est quelqu'un quand même de grand, puis donc pour comprendre l'époque puis pour comprendre pourquoi que ça a duré autant longtemps que ça. Fait quand on remarque que c'est un maire qui pensait comme ça, c'est normal que ça les femmes aient été confinées au foyer autant longtemps.
Ça a été influencé dans le fond, que c'est une figure de pouvoir dans le fond, tout le monde tu veux essayer.
Exactement.
C'est vrai. Ah ben c'est vraiment intéressant, merci Maud.
Merci.
Oui, alors on va passer à Julia, qui est sur, je crois, les pilules rouges du docteur Kodak.
Oui, en fait, c'est une annonce qui a été publiée dans L'Avenir du Nord, l'édition du 8 février 1900, puis le titre de l'annonce, c'est juste « Femme fatiguée ». Ça cherche à vendre un produit qui s'appelle « Les pilules rouges du docteur Kodak ». En fait, l'idée, c'est de combattre une maladie qui a été inventée de toutes pièces, qui nomme la fatigue féminine due à trop de travail au ménage, avec la science moderne. C'est comme ça a été publié au début du 20e siècle, c'est vraiment le début de toute la pharmacologie, des choses comme ça. Alors,
comment le produit a été vendu?
OK, en fait, le produit est vendu par une compagnie qui s'appelle la compagnie chimique franco-américaine. Puis il est vendu en utilisant différentes tactiques de marketing. Premièrement, il y a un grand appel à l'autorité qui dit qu'il y a des médecins spécialistes dans la condition féminine qui peuvent s'occuper des femmes qui ont ce problème. Il dit qu'il y a plein de consultations qui sont possibles, qui peuvent amener leur enfant, qui peuvent faire n'importe quoi qu'ils veulent. Aussi, il y a un message implicite qui est passé, qui utilise la peur d'être rejetée par son mari. Il y a un extrait qui dit « Le mari aussi est fatigué, parce que la femme est très fatiguée, et il vient de moins en moins à la maison. » Puis ce qui est important de comprendre, c'est que ça implique le fait que le foyer pourrait éclater si la femme ne ferait rien par rapport à l'immense problème qui est la fatigue féminine. Et cet éclatement de la foyer-là, c'est l'éclatement de sa vie complètement, parce qu'à cette époque-là, sa vie tournait vraiment autour de ça. Et c'était même considéré en tant que l'essence même de ce qu'était une femme, un peu comme Maud disait plus tôt. Mm-hmm. Oui, il y a aussi un deuxième argument de vente qui est assez intéressant, qui cherche dans la deuxième partie de l'annonce, il cherche à combattre toute la concurrence parce qu'il les présente comme des charlatans et tous les produits moins dispendieux, il dit ben c'est pas la même qualité, il faut faire attention. Puis il passe beaucoup de temps à dire qu'ils sont pas scientifiques, puis ils ont pas la même prestance que la grande compagnie chimique franco-américaine.
Qui est le docteur Coderre et la compagnie chimique franco-américaine?
OK, le docteur Joseph-Emery Coderre, c'est une figure importante du domaine médical québécois pendant la seconde partie du 19e siècle. Il vend plusieurs produits indépendamment, puis là, plus tard, on voit apparaître une compagnie qui est censée avoir vu le jour au Massachusetts, mais c'est quand même assez nébuleux. J'ai lu toute une thèse sur le sujet et il n'y a pas beaucoup de traces de ça. La seule trace qu'on a, c'est une adresse à Montréal qui correspond en fait à l'adresse du docteur Coderre lui-même. Il semblerait qu'il ait inventé la compagnie pour se faire paraître un peu plus grand puis un peu plus acceptable, on va dire. Puis elle a produit différentes pilules puis différents produits, cette compagnie-là. Elle a produit des pilules destinées spécifiquement aux hommes qui s'appellent les pilules Moreau, qui sont censées redonner de la vigueur et de la force aux hommes. Et il produit aussi des produits pour les femmes, comme les pilules rouges, qui sont censées enlever la fatigue des femmes faibles qui ont beaucoup de difficultés avec leur travail au foyer. Aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est la première fois qu'il met en place, ben, c'est une des premières fois où on voit la mise en place de produits complémentaires qui viennent aider avec tous les effets, les effets secondaires de la médication qu'il propose. Et si on se propose d'être utilisé en unissant avec les pilules rouges ou les pilules moraux pour se faire plus de profit, évidemment.
Okay. Et qu'est-ce que cette annonce-là peut nous apprendre sur la société des années 1900?
Ok, ce qui est assez intéressant avec cette annonce, c'est que on voit un peu l'origine de ce que Maud disait plus tôt, à part que on n'a pas besoin de discuter cette position-là. C'est une position, c'est des normes sociales qui sont complètement indiscutables, qui sont complètement internalisées par toutes les femmes puis toutes les gens qui disent ça. Les gens en disant ça, ils vont dire ben oui, évidemment, les femmes sont censées être au foyer, puis il y a pas de problème, ils sont censées se soumettre à leur mari, puis que oui, c'est dangereux parce que c'est le mari qui décide, c'est lui qui va au travail. Ça nous renseigne beaucoup sur, comme j'ai dit avant, la position de la femme dans la vie familiale. On voit aussi à quel point c'est dégradant puis archaïque, puis à quel point c'est accepté. En fait, on voit à quel point la société des années 1900 est profondément ancrée dans les normes sociales et qu'est-ce que devrait être chacun des genres et à quel point c'est fondé dans...
Non, pas quelque chose de très scientifique.
Pas fondé dans quelque chose de très scientifique, en effet, mais c'est quand même considéré comme très scientifique. Puis la science aide même ce mouvement-là à cette époque.
Ben,
genre...
l'influence de l'Église, là.
Ben, c'est ça.
C'est
sûr
science,
que...
science...
Exactement.
Même que l'Église a tué, là.
Oui, oui, oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la science, elle va supporter, elle va suivre les normes, puis que c'est pas nécessairement la science qui...
biaisée.
Exactement, c'est une science très bien biaisée. Puis on voit l'arrivée de la nouvelle science, puis comment ça affecte les gens, puis à quel point ils veulent vraiment suivre ça.
Oui.
Une chance que les temps ont changé.
Une chance que les temps ont changé.
Alors, ben, merci beaucoup, Julia, c'était vraiment intéressant. Merci. C'est ce qui conclut, en fait, notre chronique sur les archives que nous avons récupérées au Centre d'archives de la Rivière-du-Nord. Alors maintenant, nous allons passer au club de lecture, en fait, sur des livres qu'on a lus sur, évidemment, le thème féminin. Alors Florence, toi, c'est sur un atlas mondial, si je ne me trompe pas.
L'ouvrage que j'ai étudié s'intitule « L'atlas mondial des femmes ». Puis lui présente vraiment un portrait global réalisé à travers une approche statistique, géographique, historique et critique sur la situation des inégalités entre hommes et femmes dans le monde en 2015.
Parfait. Qui est l'auteur de l'atlas?
En fait, l'atlas a été rédigé par de nombreux chercheurs et chercheuses qui, eux, ont travaillé en partenariat avec l'Institut national d'études démographiques, qui est un organisme de recherche en France. Et ces chercheurs-là étaient sous la direction d'abord d'Isabelle Attané, qui est démographe et sinologue, et aussi sous la direction de Carole Brugel, qui, elle, va étudier, entre autres, la fécondité, les politiques démographiques dans les pays du Sud. Et finalement, les chercheurs étaient sous la direction de Wilfried Roux, qui est sociologue, et qui, lui, va étudier surtout les formes d'union et les sexualités dans la famille et la vie privée.
Quel terme l'œuvre aborde-t-elle?
En fait, il y a plusieurs thèmes, puis justement, ces thèmes-là divisent les différentes parties de l'ouvrage. Donc d'abord, il y a le premier thème qui est « Disposer de son corps », qui, lui, porte sur les droits des femmes envers leur corps et leur sexualité. Puis, donc ça, c'est pour le premier chapitre. Et le deuxième chapitre porte aussi sur la même thématique, mais surtout dans la sphère privée. Entre autres, les indices statistiques qui vont être étudiés vont porter sur le droit d'imiter la fécondité dans certains pays, le droit à l'avortement et l'homosexualité. Ensuite, le troisième chapitre qui, lui, parle de la socialisation et des stéréotypes entre genres. Et donc ça, ça porte surtout sur l'intégration sociale et culturelle des femmes. Puis aussi question de la place des femmes dans les médias, dans tout ce qui est la culture. Donc ici, il y a des femmes en journalisme ou si c'est vraiment pas accepté dans certains pays. Puis ensuite, le quatrième chapitre, lui, porte sur la dépendance ou l'indépendance économique des femmes. Puis lui, cherche vraiment à montrer la répartition de l'accès à la richesse et le rôle que les femmes peuvent jouer dans le domaine économique des différents pays. Puis finalement, le cinquième chapitre, lui, porte sur la lutte contre les inégalités. Puis ce chapitre-là se centre beaucoup sur les efforts qui sont souvent vains des différentes organisations internationales pour lutter justement contre ces inégalités-là. Ce qui est intéressant, c'est que ces thèmes-là sont présentés sous à l'aide de différents indices statistiques. Si les données sont comparées entre pays et continents d'un point de vue à la fois géopolitique et socio-économique. Donc souvent, on va comparer les pays développés aux pays en voie de développement, les pays émergents, tout ça.
OK. Et c'est quoi ta critique sur l'Atlas?
OK. Mais d'abord, j'ai vraiment trouvé que l'Atlas était très cohérent, très logique. Puis chaque chapitre permettait de mieux comprendre le suivant. Donc ça, c'était vraiment très bien fait. Sauf que on parle de statistiques. Donc, il y a beaucoup de pays dans le monde, surtout par rapport aux femmes, où il n'y a aucune donnée qui sont disponibles. Donc ça peut vraiment nuire à l'interprétation des résultats. Mais les auteurs précisent constamment justement les limites de la représentativité des informations et l'importance d'étudier ces données-là et les interpréter avec un jugement critique et en considérant l'influence de plusieurs facteurs.
Ah, OK. Au moins, c'est intéressant. Ils prennent ça en compte.
Ouais, exactement.
Ah, OK.
Ouais. En fait, pour conclure, l'Atlas mondiale des femmes permet vraiment de dresser un portrait très général de la condition des femmes dans le monde en 2015. Puis ce qui en ressort, c'est que oui, il y a des améliorations depuis quelques décennies. Sauf que quand même, il y a vraiment beaucoup de travail à faire parce qu'il y a des pays où il n'y a aucune amélioration, où ça stagne depuis quelques années. Donc, merci.
Merci, c'était vraiment intéressant. Pour ce qui est de mon livre, j'ai pris une œuvre en fait d'une Québécoise de Monique Jérôme Forget qui a écrit Les femmes au secours de l'économie. Juste pour préciser, Madame Jérôme Forget a été une femme importante en politique en fait de 2007 à 2009 puisqu'elle était ancienne ministre des Finances au sein du gouvernement Charest à cette époque. Elle a une pensée néolibérale. Donc on va voir de quoi qu'elle parle en fait, surtout avec les femmes dans son œuvre.
De quoi ça parle à peu près?
Alors, en fait, ça parle vraiment comme la condition des femmes, surtout au niveau des entreprises, surtout au Québec et un peu en France aussi, mais vraiment axé sur le Québec. Elle donne plusieurs exemples. En fait, chaque chapitre présente une problématique différente. Mm-hmm. Il y a plusieurs chapitres, exemple, qui parlent de l'équité salariale, la conciliation de travail-famille qui est vraiment difficile pour eux autres. Juste un exemple qu'elle avait apporté dans le livre, l'exemple des femmes enceintes. Évidemment, il faut qu'ils partent en congé maternité pour pas qu'ils accouchent en fait dans le bureau. En effet. Et après le congé maternité, après avoir en fait s'occuper du bébé, qu'elles sont prêtes à retourner au travail, c'est vraiment difficile parce que l'entreprise ne fait pas d'efforts vraiment pour les réintégrer parce que tu sais, elles ont quand même perdu un peu le rythme du travail. Donc, il faut vraiment qu'ils aillent de l'aide. Puis aussi, les employeurs en fait, surtout masculins, dénigrent ça. Ils n'aiment pas ça que les femmes. Par exemple, quand j'ai maternité, parce qu'ils perdent en fait des employés, ils sont obligés de combler par un poste temporaire, mais...
C'est plus de travail pour eux.
Exactement. Mmh. Mais c'est quelque chose d'essentiel. Je veux pas, si on veut avoir des gens dans la vie pour faire des bébés. Puis aussi, ça apporte le fait qu'on sous-estime vraiment le travail des femmes qu'elles font. Mmh. Ils ont des très bonnes pensées, tout, mais la pensée de manager surtout qu'elle apporte, c'est les hommes qui sont censés diriger ce monde-là, la business, les finances. Et les femmes n'ont pas le droit, selon eux, d'accéder là. Évidemment, oui, il y en a, mais elles sont très rares. Et pour y accéder au poste en fait, de haut dirigeant, il y a plusieurs obstacles qu'elles doivent passer. Et c'est très difficile en faire. On a plusieurs exemples aussi, surtout au niveau des stéréotypes des femmes.
Oui. Comme ça. On s'attend à ce qu'elle soit pas capable de faire ça ou qu'elle soit fatiguée. Mm-hmm. Ouais. Comme les tigres. Non,
ouais, tout est relié.
On va
appeler
Dr. Kandar.
Exactement.
En fait, c'est plusieurs chapitres qui ressemblent à ça. Et aussi, les chapitres se ressemblent tous en fait, pas hein, sur les mêmes sujets.
Mm-hmm.
C'est des sujets en fait différents, mais ça tourne autour du même du sujet central des femmes en entreprise. Mais qu'est-ce que j'aime de ce livre-là, c'est qu'elle apporte, elle soutient ses arguments avec des statistiques. Surtout, exemple, au niveau scolaire. Les femmes, évidemment, ils ont beaucoup plus, ils ont un taux plus élevé de réussite scolaire, mm-hmm. surtout au niveau universitaire, surtout ouais. des bacs maîtrise. Mais évidemment, c'est les autres qui sont payés le moins.
Ouais.
Il n'y a aucune logique là-dedans.
J'avais fait un travail là-dessus, juste une petite parenthèse.
Ah ouais?
Que c'était dans le fond, c'était que les femmes voulaient juste pas aller dans les postes les plus influents parce qu'ils ils voulaient concilier travail-famille, puis les postes les plus influents, soit c'est ça qui a le plus d'heures à faire. Mm-hmm. Donc après,
mais ça, il y a beaucoup d'explications. Peut-être ça peut expliquer, c'est ça, en ouais. partie, mais je pense
que
c'est...
En partie.
Mais il y a beaucoup de femmes qui aimeraient ça.
Oui, puis il y a beaucoup de stéréotypes ouais. aussi, comme qui disent que les femmes, ils sont pas ambitieuses, puis ils veulent pas ça. C'est vrai qu'il y a une partie des femmes qui disent, ben moi, je veux pas aller au plus haut, là, mais ouais. comme les entreprises eux-mêmes disent, ben t'es une femme, tu as des enfants, ouais. ça te tente pas vraiment, t'as pas l'ambition ouais. nécessaire, puis ça, c'est ridicule.
Puis tu sais, cette culture-là, ça s'intègre, puis tu t'en rends pas nécessairement compte.
Ouais, c'est ça,
mais moi, je parle, mettons, les femmes, qui ont déjà un bon salaire.
Ouais, ouais,
un
ouais.
travail, les femmes, mais tu sais, ils sont proposés d'aller encore plus haut, puis ils sont comme, mais j'en ai pas tellement besoin.
Ouais,
ouais mais je parlais plus aussi comme, pour le même type de travail qu'un homme peut faire, l'homme va payer plus cher.
Oui, oui. Ouais.
Mais s'il y avait un scandale, il me semble, aux Oscars ouais. l'année passée, justement, ouais. les actrices qui dénonçaient le fait que, tu sais, même si elles étaient autant populaires que certains acteurs hommes, qu'elles avaient.
Ouais, qui avaient un salaire bien moins.
Ouais. Donc,
okay. ouais. ouais. Puis aussi, à la fin du livre, en fait, le dernier chapitre, c'est vraiment des témoignages des femmes qui sont au sein d'entreprises, des hautes dirigeantes, qui expliquent vraiment comment ça a été difficile d'accéder au poste, puis comment que, en ce moment, ça leur affecte, parce que oui, ils ont, sont souvent dénigrés, souvent jugés. Exactement.
Finalement, quelle critique peut-on faire de cette œuvre?
Mais en fait, c'était, si on veut avoir des bonnes statistiques, évidemment, il faut prendre le livre, mais par exemple, La chose que j'aime le moins, c'est que Mme Jean Forget donne un peu trop son opinion, en fait. Évidemment, on voit la victime un peu.
Okay. Donc,
ça se ressent un peu dans le livre. C'est évidemment, c'est une femme. Évidemment, oui, elle a vécu des choses, mais apprendre vraiment comme le féministe, comme ah non, c'est genre juste trop mauvais, puis il faut vraiment tout changer. C'est un peu comme. Ça biaise un peu, en fait.
Pourtant, c'est néolibéral.
Ben, exactement, c'est ça que je me disais. C'est quoi qui est néolibéral dans ce livre-là, dans le fond?
Mais j'imagine dans tel domaine qu'elle travaille,
ouais, c'est
comme ça.
Exactement,
ouais. Ouais. Puis tu peux être néolibéral, c'est juste ça parce que.
Ouais, mais c'est.
Mais tu peux être néolibéral puis avoir une conception, tu sais.
Exactement, mais elle veut. Ouais. C'est ça, mais elle veut. C'est surtout comme le haut dirigeant qu'elle mentionne souvent
ouais.
dans le livre. Comme
ouais, ouais, ouais.
Le pouvoir des femmes.
Mm-hmm. Peut-être pas généraliser cette égalité-là dans l'ensemble de la société, mais en
ouais,
haut.
Exactement, avoir la même... des postes haut ouais, gradés.
Ouais.
Là.
Ouais, ok, je comprends.
Ouais, vraiment. Mm-hmm. Fait que c'est comme, je trouve ça un peu plate que, tu sais, on a aucun point de vue des hommes, des autres, qu'est-ce qu'ils pensent.
Ouais.
C'est vraiment juste comme des points de vue de femmes.
Ouais,
femmes,
ouais, ouais.
Femmes. Ouais, okay. Ouais. J'ai le même problème dans mon livre, c'est vrai, complètement.
Ouais. Fait que ça, c'est quand même un livre qui a beaucoup d'informations, mais qui peut être un peu biaisé à cause du statut de victime que Mme Jérôme Forget a fait par ouais. dans le livre. Toi, Gilbert, c'est un livre sur les femmes en politique, si je comprends bien.
Oui, en fait, c'est un livre qui a été écrit par Pascal Navarro. Sur qui s'intitule « Les femmes en politique, changent-elles le monde? » Ce qu'elle va faire dans cet ouvrage, c'est qu'elle va observer le phénomène de représentation féminine en politique, puis elle utilise beaucoup le Québec comme cas d'étude pour comme généraliser beaucoup de choses au reste du monde. Elle va regarder le phénomène en tant que tel, puis après ça, elle va essayer de s'intéresser aux impacts que ça a. C'est structuré de façon assez intéressante. Il y a une introduction qui est, pour moi, la meilleure partie du livre, qui pose une question assez importante, qui dit « Est-ce qu'il existe des valeurs qui sont automatiquement... associé au sexe? » Navarro va nous dire que non. En fait, les valeurs et les problématiques, ça, c'est une question de statistique, en fait. En général, la plupart des femmes vont défendre ces intérêts-là et ces problématiques-là, mais c'est pas quelque chose d'individuel qui est associé à un homme ou une femme. Donc, individuellement, une femme en politique, ça change pas grand-chose. Une femme qui devient présidente ou une femme qui occupe un rôle, parce que même, elle peut avoir ses propres valeurs. Mais si ils entrent en masse dans le système politique, s'il y a vraiment une parité qui s'installe, peut-être que ça peut avoir un impact positif sur le processus politique et le rendre beaucoup plus équilibré et aussi représentatif de la réalité des citoyens. La structure de ce livre-là est assez intéressante, en fait. Commencer par une mise en contexte historique de la condition des femmes au Canada, mais aussi dans l'ensemble plus, dans un sens plus large. On va parler aussi de l'Empire britannique au sens large du terme. Elle va nous parler de l'affaire Personne qui est arrivée dans les années 1920 à peu près, où une femme qui était magistrate a vu son autorité être complètement contestée Parce que il y a un avocat qui a pris un vieux document légal disant que les femmes, c'est pas légalement des personnes, donc ils peuvent pas avoir d'opinion, de décision, et ils peuvent avoir absolument aucun pouvoir. Ça a pris vraiment longtemps jusqu'à temps qu'ils puissent avoir un jugement là-dessus, parce que le Canada voulait pas se prononcer, puis ils ont été obligés d'aller jusqu'à la cour des Lords en Angleterre. Où en 1929, officiellement, dans tout l'Empire britannique, les femmes sont devenues des personnes. Avant ça, c'était seulement des...
C'était pas des citoyennes
à part entière. Exactement, c'était pas du tout des citoyennes à part entière, puis il y avait pas tous les droits qui restent avec. Après chapitre 1, ça descend un peu en qualité, parce que elle s'occupe beaucoup d'entrevues avec des femmes politiques québécoises, puis basée sur ça, elle va tirer plein de conclusions. On va par exemple parler à Pauline Marois et des femmes qui occupent des places au Sénat. Elle a aussi une entrevue que pas elle a faite, mais quelqu'un d'autre a réalisé pour elle avec Michelle Bachelet, qui est la présidente du Chili. Les conclusions qu'elle tire sont assez intéressantes quand même. Ils disent que les femmes sont très dérangées par la compétitivité et l'aspect confrontationnel de la politique, qui sont beaucoup plus proches de la réalité familiale, qui vont défendre des problématiques comme... les congés de maternité ou les garderies ou des choses comme ça. Mais où ça devient un peu plus difficile à croire, c'est qu'ils disent que ben, les femmes s'y rendent sont capables de rendre le système politique beaucoup plus démocratique, puis qu'ils disent qu'ils sont moins intéressés par les conflits de pouvoir, puis que ça leur dérange beaucoup ces aspects-là. Puis que, exactement. Puis en fait, pour elles, la parité à toutes ces choses...
La solution.
Oui, la solution à toutes ces choses-là, c'est la parité qui va venir nettoyer le processus politique.
Quelle critique peut-on faire de l'œuvre de Pascal Navarro?
Il y a plus qu'une critique que moi j'ai trouvée personnellement. Je trouve que utiliser juste des femmes pour parler de tout le processus politique, c'est pas vraiment objectif. Surtout qu'elle dit que ben, les hommes, ben, eux, ils sont très intéressés par les conflits de pouvoir, puis eux, ça leur dérange pas du tout. Puis c'est ça qu'elle implique en parlant juste aux femmes. Tandis que dans mon opinion personnelle, je crois que ça dérange tout le monde, puis qu'il faudrait se concentrer sur le processus politique en tant que tel. Et pourquoi il y a ces problématiques de pouvoir-là? Il
faudrait l'adapter.
Puis il faudrait aussi aller chercher d'autres opinions. Je trouve que tirer beaucoup de conclusions... Tu sais, oui, elle a des faits dans son livre, mais la plupart des conclusions sont... ça semble pas vraiment très fondé. Puis c'est juste fondé sur les propos de politiciens qu'elle a interviewés. Puis je trouve que c'est pas très scientifique comme démarche, puis que ça aurait pu être amélioré.
OK. Merci beaucoup. C'est encore une fois très intéressant. Simon, c'est toi aussi une œuvre... En fait, un livre sur la même auteur, je crois.
Exactement, c'est encore un livre de Pascal Navarro. Dans le fond, c'est un essai politique qui est de nature féministe, sauf que c'est un féminisme nouveau. Donc, dans le fond, elle, ce qu'elle va prôner dans son livre, c'est l'augmentation du nombre de femmes en politique qui sont à des postes influents afin d'atteindre la parité des sexes. Et si on atteint la parité des sexes, ça va faire qu'on va pouvoir conserver les acquisitions de l'ancien féministe au niveau social. Dans le fond, les femmes sont rendues plus égales aux hommes là, au niveau des...
Elles peuvent travailler.
Exactement. Elles peuvent travailler, ont des congés de maternité, conciliation, travail, famille, ces choses-là. Sauf que là, elle dit que si on n'atteint pas la parité, ben, ça va redescendre tranquillement, puis on n'aura plus ça.
OK. Puis c'est quoi les principaux arguments que l'auteur fait en ce qui concerne la parité dans notre Parlement?
Donc, premièrement, elle va dire qu'on a besoin de la parité parce que une proportion de femmes qui est représentative des femmes de la population, c'est plus démocratique et c'est plus légitime. En fait, ça ferait un gouvernement démocratique légitime parce qu'en ce moment, là, il l'est pas assez. Donc, la proportion au Québec, en tout cas, c'est comme, il y a comme 30% de femmes, tandis que 70% d'hommes. Tandis que la parité, en fait, ça serait une proportion entre 40 et 60%. Donc, admettons 40% de femmes, 60% d'hommes, ça serait la parité et tout ce qui se situe entre. Là. Donc, ou inversement, là, 60% d'hommes, 40% d'hommes. Et ensuite, elle va parler des quotas électoraux parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que « Ah, mais là, on va dire, on va élire des femmes en politique à des postes d'influence juste parce que ce sont des femmes. » Puis il y a même des femmes qui sont rebutées d'aller en politique pour ça parce que, justement, ils disent que « Ben là, je vais être là juste parce que je suis une femme. » Mais non, c'est pas vrai parce qu'en fait, n'importe quelle femme, autant que les hommes, doivent mener une campagne électorale qui est de qualité pour que les gens l'élisent. Donc, elle va discréditer ça. Elle va essayer de donner des arguments pour l'abolition d'une tradition de recrutement méritocratique. Donc, ça, c'est toujours pigé dans le même bassin de personnes pour qu'ils deviennent des politiciens.
Ouais.
Donc, c'est exactement ouais. ça. C'est souvent, c'est une grande majorité d'hommes qui sont dans ces bassins-là. Donc, ça va empêcher les femmes, c'est avoir moins de chances d'aller en politique. Et également, elle va parler du rôle de l'État, parce qu'elle va dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus dans les priorités de l'État de, que ce soit l'égalité entre les hommes et les femmes en politique. Donc, étant donné qu'ils sont plus égales aux hommes dans la vie de tous les jours, nous, ce qu'on voit, on dirait que les femmes sont égales aux hommes maintenant. Sauf que c'est ça. Fait que l'État aussi voit ça. On ne veut pas, il va dire comme, mais moi non plus, je m'occupe plus vraiment de tout parce c'est que c'est réglé. Atteint. C'est ouais. réglé, mais dans le fond, c'est pas réglé dans les non. postes influents. Puis ça contrôle tout le reste. Hein. Fait qu'il faut se ouais. dire que si ça continue comme ça, ça sera plus l'égalité très très longtemps là, au niveau de tous les jours, ce qu'on voit dans la société en général.
Puis, est-ce qu'elle a répondu aux critiques qui ont été faites par rapport à son premier livre sur le sujet?
Oui. Dans le fond, la plus grosse critique, c'était qu'elle ne parlait pas des hommes, elle ne se fiait pas à l'opinion des hommes et toutes ces choses-là. Mmh. Donc, premièrement, elle va avoir interviewé Jean Charest.
C'est un homme.
C'est un homme.
C'est pas la meilleure image,
là. C'est pas la meilleure image, mais en fait, lui, en 2006, il a participé à la loi sur les sociétés d'État qui va rendre la parité obligatoire. Donc, veut pas, il
fait
pas...
des choses, quand
même. Il fait des choses. C'est sûr qu'il a fait des choses moins bonnes que d'autres, mais il a fait
des choses.
Pour les femmes, ouais. c'est un grand pas, veut pas. Et aussi, elle va beaucoup parler, mais beaucoup parler dans son livre du rôle des hommes dans la parité. Parce qu'elle va dire que n'importe qui, que tu sois un homme ou une femme, puis t'es en politique, que tu devrais vouloir la parité juste ouais. pour le simple fait que ça va être plus légitime. Parce qu'il y a 50% d'hommes et 50% de femmes dans la population, ben il faut qu'il y ait 50% d'hommes et 50% de femmes qui sont en politique. Pour terminer, dans le fond, moi, les petites critiques que je préfère par rapport à son livre, ben c'est sûr que, du côté mauvais, c'est comme plus ou moins... bien structuré. Là. C'est sûr que c'est un essai, ça reste que c'est mm-hmm. pas c'est la perfection, mais... Puis aussi, c'est des sujets qui sont réexploités de chapitre en chapitre. C'est comme, elle annonce au début de son chapitre, « Ah, je vais parler de ça. » Elle parle d'autre chose. Puis le sous-titre d'après, elle va parler de ce qu'elle était censée parler dans l'autre d'avant. Mm-hmm. Fait que des fois, ça peut devenir un peu mélangeant, puis c'est redondant, là, veux pas. Aussi, elle a parfois des arguments qui sont pas appuyés. C'est totalement objectif. Elle dit... Ça reste un essai, c'est sûr, il faut se dire un essai, tu peux le dire un peu plus subjectif, ouais. mais des fois, c'est juste que c'est bien beau être subjectif, mais il faut que tu t'appuies sur quelque chose pour ouais. dire quelque chose. Des fois, c'est juste une conclusion qu'elle a tirée, puis elle dit, c'est comme ça.
Qui est genre, ça sort de n'importe où.
Mais l'essai laisse justement cette marge de manœuvre au lecteur de dire, ben.
Exactement, sauf que des fois, tu sais, veux pas, il faut que ça soit appuyé sur quelque chose. Là, ça sort de rien.
Le problème, c'est que ça nuit aussi à la validité de tout le reste de l'œuvre, qui est quand même bien structurée et qui est intéressante. Mais dès qu'elle tire une conclusion qui sort de nulle part, ben là, tu te dis, ben, sûrement que le reste, c'est aussi pas fondé. Puis,
ça discrédite un
petit peu. Exactement. Ouais.
Puis sinon, ce qui est bien dans son œuvre, c'est que ça rappelle, tu sais, l'œuvre a été écrite en 2015, fait que c'est récent.
Ouais, c'est récent.
Puis ça rappelle que l'égalité en politique n'est pas atteinte, non. vraiment pas, puis qu'on devrait comme se pencher là-dessus. Puis je pense que justement, les gouvernements, là, ça a rembarqué dans leur idée d'atteindre l'égalité des sexes, là, comme avec Justin Trudeau, que là, maintenant son gouvernement c'est 50-50, là, 50% au Parlement et tout. Aussi, c'est sûr que c'est 94 pages, donc c'est relativement facile à lire, c'est court.
Ouais.
Mettons, j'ai pas eu le temps de me tanner en le lisant. J'étais pas comme, ben là, c'est trop long. Non.
Okay.
Fait que finalement, à la fin, il y a un lexique qui va. Parce qu'elle utilise plusieurs termes comme mixité égalitaire, comme la parité ou plein d'autres termes. Puis des fois, quand tu revois, tu te souviens plus ce que c'est. Puis il y a un lexique à la fin qui explique tout.
Alors,
c'est
oui.
quoi.
Fait
que c'est vraiment. Ouais. C'est ça. Alors voilà.
Ok, ben merci beaucoup, Maud.
Merci.
Ouais, c'est bon, ouais. Ça a l'air d'un bon livre, malgré tout. Surtout pour les... Parfait, alors c'est ce qui conclut, en fait, la rubrique sur les clubs de lecture et les podcasts en tant que tel. Alors, je voulais vous remercier chacun de tous, Florence.
Merci, ben ça me fait plaisir. Puis je crois que ce qu'on peut retenir de cette discussion-là, c'est que autant ailleurs qu'ici, il y a encore énormément de travail à faire par rapport aux inégalités entre hommes et femmes.
Julia.
Oui, moi j'ai adoré, j'ai appris beaucoup de choses, honnêtement, ça m'a fait passer par-dessus beaucoup de stéréotypes que j'avais par rapport, beaucoup de préjugés que j'avais par rapport au féminisme et des choses comme ça. Puis ça m'a appris, je crois que c'est vrai que c'est une problématique actuelle, mais il faut la réactualiser, puis il faut réfléchir à une nouvelle façon de le faire qui parle plus aux gens.
Ouais. Exactement. Et de mon côté, je dirais que c'est le fun de voir qu'avant, on était vraiment, vraiment loin dans l'égalité homme-femme. Ouais. Vraiment loin. Ouais. C'est sûr que ça a énormément avancé, surtout ici au Québec. C'est sûr qu'il y a d'autres endroits dans le monde où ça ne l'est vraiment pas encore. Ouais. Là. C'est sûr qu'il faut penser à ça plus, mais il faut penser comme un peu ce que Pascal Navarro disait, qu'en politique, c'est là qu'il faudrait que ça se concrétise plus là,
au Québec. On vient loin. Hein. Les archives, c'est assez incroyable.
Les archives, ça m'a complètement...
Exactement.
Ouais, en espérant que ça aille, que le podcast arrive vers les yeux à quelques auditeurs.
Ouais. Merci, Charles-Olivier.
Ouais, merci, honnêtement. Belle présentation.
Vraiment, oui.
Alors, c'était pour le podcast du CSH pour au sujet des femmes.